والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. متفق عليه. Dans ce hadith, Ibn Mas'ud رضي الله عنه raconte: une fois j'étais entré dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était souffrant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade. Et donc, je dis, il y a d'autres hadiths qui expliquent le sahaba, je ne sais pas si c'était le même, il était venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait de la fièvre. Il a dit que tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de la fièvre qu'on pouvait sentir la chaleur de son corps mubarak à travers la couverture. Il y a tellement, c'était un degré de fièvre, la température était tellement élevée qu'en s'approchant de lui, c'est comme si on s'approche du malade, à travers la couverture, on peut sentir la chaleur du corps de la personne. Tellement la maladie était sévère sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce sahaba a fait la remarque au prophète sallallahu alayhi wa sallam: comment tu es souffrant? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que quand je souffre, en ce sens, je souffre comme deux personnes parmi vous. C'est-à-dire que lorsqu'Allah m'éprouve par la maladie, c'est deux fois plus que ce qu'un être humain normal peut avoir comme épreuve concernant la maladie. Et là, Ibn Mas'ud, il répond au prophète d'Allah: est-ce que c'est parce que tu es doublement récompensé? Et le prophète dit: effectivement, c'est cela la raison. Le prophète fait comprendre Ibn Mas'ud, qui avait lui-même déduit, que comme il était doublement récompensé, ben, de la même manière, Allah Ta'ala l'éprouve deux fois plus. En commentaire, les muhadithines expliquent que ce hadith rejoint, explique un hadith plus général dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué que ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, que les gens les plus éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les prophètes. Thumma al-amthal fal-amthal. Ensuite, ceux qui se rapprochent le plus, c'est-à-dire quoi? Ceux qui ont les caractéristiques des anbiya, plus une personne à la foi, à l'iman, à le yaqin de son cœur, plus elle sera éprouvée par Allah. Et ça rejoint un hadith qu'on avait expliqué il y a quelque temps, que lorsqu'Allah Ta'ala aime une personne, Allah Ta'ala éprouve cette personne. Lorsqu'Allah Ta'ala aime une personne, nous on a compris que si Allah Ta'ala m'aime, il va me donner beaucoup d'argent. Je vais être très riche, je vais avoir un haut poste de la société, je vais avoir la reconnaissance des gens, je vais avoir une grosse voiture et je vais avoir plein de choses, plein de bienfaits. Ça veut dire qu'Allah il m'aime. Faut pas, ça c'est la logique humaine ça. La réussite est synonyme de plaisir palpable, visuel. Quelqu'un réussit, c'est quelqu'un, il flambe. Grosse voiture, bon travail, jolie madame, quoique ça n'a pas besoin d'être riche, mais il y a tout ce qu'il faut avec. Mais lorsqu'Allah Ta'ala aime une personne, bien au contraire, Allah ne donne pas à cette personne. Parce que quand Allah il donne de ce dunya, la pièce plus Allah il va donner, ben, plus la personne aura à répondre de ces choses, de ses bienfaits le jour du Qiyamah. Et moins on a eu de la part d'Allah, moins on aura de compte à rendre. Ce n'est pas pour rien si le prophète avait dit aux sahaba, ce groupe de sahaba très pauvres, qui avait envoyé un des leurs voir le prophète sallam. On avait déjà expliqué ce hadith il y a quelque temps, mais on le répète, ça c'est un rappel, c'est profitable pour nous tous. Donc ce sahaba, il a été envoyé par tous les pauvres, pour dire c'est le syndicat de tous les fuqara, de tous les masakin. Il dit: va voir le prophète sallam et va lui parler de notre situation. Et là, ce sahaba arrive et le prophète sallam le reçoit. Le prophète sallam lui dit: Ahlan, hein, sois le bienvenu. Tu es venu de qaum, de personnes qui sont aimées par Allah. Il dit que tu viens de la part de personnes qui sont aimées par Allah. Déjà, première chose, le prophète sallam il le reçoit direct. De nos jours, un RMiste, il va voir, on dirait pas machin, mais il va voir même un haut responsable politique. Il va voir quelqu'un, ministre ou quelqu'un comme ça. Il va vous recevoir? Jamais il vous reçoit pas. À la limite, s'il vous donne un rendez-vous avec le secrétaire de son secrétaire de son secrétaire dans 2 ans. Il y en a qui travaillent de la diplomatie, ils connaissent. Mais, et là aussi, ce sera, il va prendre note de ce que vous dites, et puis on vous tient au courant, et puis c'est dans la poubelle. C'est fini, c'était juste pour que vous ayez l'illusion que vous avez été écouté. Parce que vous ne représentez rien. Vous ne représentez rien, donc vous donner du temps, c'est perdre du temps. Le prophète, lui, l'homme le plus aimé, le plus honoré dans ce dunya, dans ce monde par Allah Ta'ala, un pauvre, il vient, le prophète le reçoit, il le fait asseoir, il lui parle, il lui donne du temps. Ça, c'était un chef d'État. Ça, c'était le prophète, chef d'État, père de famille, époux exemplaire, papa, père exemplaire, grand-père exemplaire, oncle exemplaire, beau-père exemplaire, c'est-à-dire modèle parfait. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. La perfection, c'était dans notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète le reçoit, et qu'est-ce qu'il dit? Tu viens de la part de personnes qui sont aimées par Allah. De nos joies de la société. Est-ce qu'on aime les pauvres? Pas nous, mais est-ce que les pauvres sont aimés par la société? Non. Quand quelqu'un est pauvre, on vous donne le RMI, mais maintenant restez tranquille. Il faut arrêter de demander plein de choses. Prenez votre RMI et allez vous installer là-bas dans un petit coin en silence. Si vous êtes riche, un jour faites expérience. Je ne sais pas comment vous avez fait ça, moi-même je ne sais pas si je pourrais faire. Mettez 50 000 euros de votre compte. Je ne vais pas vous prêter, mais je n'ai pas non plus, mais j'ai des gens qui m'ont dit. Ils avaient une maison, une vieille maison, ils l'ont vendue. Du jour au lendemain, quand ils mettent l'argent dans le compte, la banque, ils vous envoient quelqu'un, le banquier veut vous recevoir. Monsieur Mohamed, Monsieur Ismaël, votre argent nous intéresse, il faudrait penser à investir et tout et tout. Vous avez de l'argent, vous devenez quelqu'un d'important. Non, vous avez de l'argent, vous devenez quelqu'un. Pas d'important. C'est comme une naissance. Mettez 100 000 euros sur votre compte, c'est joie plus un, vous êtes né. Autrement, la société n'a pas besoin de vous. Le Brassam, il le reçoit, il dit, vous êtes des gens qui sont aimés par Allah. Et qu'est-ce que ces pauvres, ça c'était juste qu'on voulait citer, pendant ce hadith, et puis le reste, qu'est-ce qu'ils sont venus dire les pauvres, d'après vous? C'est dire, au point d'Allah, on n'a pas d'argent, on n'a pas à manger. Là, wallah, ils ne sont pas venus se plaindre. Ils savent que moins on a de ce dunya, plus on aura là-haut. Il dit au prophète d'Allah, les riches nous ont dépassés dans les bonnes actions. Les riches donnent zakat, nous on ne peut pas donner. Les riches donnent sadaqa, nous on ne peut pas donner. Les riches, ils donnent à manger aux gens, nous on ne peut pas donner. Ben, ils vont avoir de hauts degrés dans le paradis. Regardez, c'est quoi le fikar? Le fikar, c'est pas que eux ils mangent de la viande, nous on mange des légumes. Là, eux ils ont des occasions de faire des a'mal saliha que nous ne pouvons pas faire. Ça veut dire que nous sommes défavorisés, nous n'aurons pas de haut grade. C'était le seul fikar des sahaba. Comment avoir le plus haut grade de le paradis? Comment se rapprocher le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mis à part ça, dunya, manger, tout ça, ça ne les intéressait pas. Tout est dans les mains d'Allah. Et là, le prophète m'a dit, il a annoncé pas mal de bonnes nouvelles aux pauvres, on se limitera à une seule. Il a dit que les pauvres entreront 500 années avant les riches dans le paradis. Comprenons, les musulmans qui étaient pauvres de ce dunya entreront 500 années avant les musulmans qui étaient riches dans ce monde. Même si ce musulman qui était riche était quelqu'un de religieux. Pas quelqu'un qui était riche qui faisait n'importe quoi sur l'argent, non! Quelqu'un qui était dans la religion, qui pratiquait. Mais comme Allah lui a donné dans ce monde, Allah ne peut pas lui donner le même rang que les fuqara, que les pauvres. Il faut qu'il y ait une différence. C'est la justice d'Allah. Et deuxième chose, il y en avait d'autres, on se limitera à deux. Ça c'est hadith. Le Prophète m'a dit que dans le paradis, les musulmans qui étaient riches dans ce monde, ils verront des demeures qui sont faites d'une pierre rouge. Vous rappelez ça peut-être un rubis. Une pierre rouge taillée, des demeures qui sont faites dans une pierre précieuse du paradis. Cela, et ils vont admirer ces demeures. Ces demeures-là seront pour les musulmans qui étaient pauvres de ce dunya, de ce monde. Ils l'admireront comme nous, de ce bas monde, nous admirons les étoiles. Ils ne pourront pas y accéder. Parce que ça, c'est la demeure des gens qui ont eu des difficultés dans ce monde. Des gens qui étaient dans le besoin, qui n'ont pas eu le confort matériel, qui n'ont peut-être pas eu le ventre plein. De cette manière, Allah Ta'ala va les récompenser. Donc, il y avait un reportage il y a quelques jours, enfin j'entendais la radio, pour qu'on comprenne comment on doit prendre conscience des bienfaits, que même si on n'est pas riche, mais les bienfaits que nous avons ici, Alhamdulillah, si on pouvait comparer avec nos frères des îles Mayotte, des îles Comores, Madagascar, pour rester juste toi de nous, pas besoin d'aller loin, basse de l'île voisinante, regardons la situation, regardons comment nous vivons. Nous n'avons qu'à lever les deux mains et remercier Allah. Dans la radio, il expliquait, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique, je n'ai pas entendu les débuts, Ils expliquent comment il y a la sécheresse en ce moment. Sécheresse terrible. Et il y avait des femmes de ce pays, elles ont marché 2 kilomètres pour arriver à une rivière. Ils savent que à l'endroit il y a une rivière. 2 kilomètres sous le soleil avec les ustensiles, tout ça c'est le dos. Quand elles arrivent, ils disent que leurs efforts n'ont pas été récompensés. La rivière était déjà asséchée. C'est-à-dire qu'elles n'auront pas d'eau pour cuisiner, ni pour donner à boire aux enfants, rien du tout. Moi j'étais en train d'écouter ça en conduisant, je dis subhanallah. Moi, quand on fait wuzu, Allahu Akbar, avec l'eau du wuzu, on peut prendre un roussel, on peut prendre un bain. Je dis vraiment qu'Allah nous pardonne premièrement et qu'Allah nous donne le tawfiq de remercier Allah pour ses bienfaits, qu'on prenne conscience et qu'on remercie Allah. Il ne faut pas croire que ça c'est automatique. On tourne le robinet, l'eau tombe. Là, Wallah, dans tous les pays, on peut installer des robinets, mais l'eau, ça c'est un ni'mat de la part d'Allah. Manger, c'est un ni'mat de la part d'Allah. La sécurité, vous sortez de chez vous, vous ne risquez pas de vous faire tuer. Regardez, il y a des gens qui habitent en Afrique du Sud. Ils ont tout. Ils sont riches, immensément riches. Toutes les semaines, il y en a qui se font égorger. Dans la rue ou chez eux, pistolet, arrêter un feu rouge, un coup de pistolet, on les tue, on vole la voiture régulièrement. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas Al-Amn, ils n'ont pas la sécurité, la tranquillité. Tout ça, mes chers frères, ce sont là des bienfaits. À nous de remercier Allah Ta'ala pour ça. Bon, on s'est éloigné un petit peu du Maudour. Donc, je ne sais pas comment on est arrivé à là. Plus une personne, subhanallah. Donc, le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam explique à ce sahaba que plus on avance dans la foi, plus notre iman augmente, plus Allah Ta'ala éprouvera la personne. Voilà, comme on avait dit tout à l'heure, le hadith qu'on avait fait là, il y a quelques semaines, quand Allah aime quelqu'un, Allah va l'éprouver. Et quand quelqu'un est éprouvé de la part d'Allah, c'est une preuve qu'Allah Ta'ala l'aime. Mais comme on avait déjà expliqué, on ne va pas répéter, à nous de savoir maintenant comment vivre l'épreuve. Faire preuve de patience, comprendre que cela vient d'Allah, ce n'est pas que je suis malchanceux, ce n'est pas que c'est un hasard, ou ça tombe toujours sur moi, non. Ça vient de la part d'Allah, et Allah Ta'ala attend de moi une réaction. Et si j'ai la réaction qu'Allah voulait de ma part, Allah Ta'ala m'accordera des degrés que jamais un homme ne peut atteindre par les actions. Il y avait une citation d'un savant, il disait qu'un être humain atteint des degrés par ses épreuves qu'il n'aurait jamais pu atteindre par ses bonnes actions. Jamais notre tahajjud, notre qiyamullah, notre dhikrullah, etc. aurait pu nous faire atteindre les degrés qu'on peut avoir par la perte d'un proche, par la perte des biens, par une maladie ou autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut espérer avoir ça, non. Mais si cela arrive, ça vient de la part d'Allah, Allah veut quelque chose de bien pour moi. Je fais preuve de patience, je remets tout dans les mains d'Allah et j'ai espoir, on appelle ça al-ihtisab. J'ai espoir en la rétribution. Donc on avait dit, cela rejoint ce hadith, les gens les plus éprouvés ce sont les prophètes, ensuite ceux qui sont les plus proches. C'est-à-dire plus on est pieux, plus on a la foi, le yaqin dans notre cœur, plus Allah Ta'ala va nous éprouver. فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَ زِيدَ فِي بَلَائِ. Si quelqu'un a un iman fort, Allah Ta'ala l'éprouvera plus encore. Comme le Prophète sallam, qui avait l'iman le plus fort, ça n'y a pas de doute, Allah l'éprouve plus que les autres personnes. Donc on comprenne bien, à travers ce hadith, qu'une personne qui est éprouvée, il ne faut pas dire que c'est quelqu'un qui est puni. C'est quelqu'un qui est en train d'être éprouvé par Allah et non pas puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on comprend à travers cette histoire qu'Allah Ta'ala éprouve les gens en fonction de leur niveau. Ce qui fait que lorsqu'une personne a eu une épreuve, que ce soit dans sa santé, dans sa famille, dans ses biens, si Allah l'a éprouvé par cette difficulté, c'est que Allah sait que cette personne est capable de surmonter cette épreuve. Parce qu'Allah n'éprouve jamais une personne en dessus de ses capacités. Allah aurait été injuste sinon, Allah n'est pas injuste. Si Allah éprouve quelqu'un, c'est qu'Allah n'éprouve pas quelqu'un pour qu'une personne craque, ou pour qu'une personne fasse une dépression, ou pour qu'une personne se suicide. Non, Allah ne veut pas du mal aux gens. Allah il sait que si Mohammed ou Ishaq ou Yaqub a été éprouvé de telle manière, c'est que sa foi doit lui permettre de surmonter cette épreuve. Et là, le quota de sobre, de patience et de iman suffisant pour surmonter cette épreuve. Ce qui fait que cela nous fait déboucher sur le hadith numéro 13 dans ce chapitre. قال النبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه. Dans le hadith de Anas bin Malik, il explique que jamais un musulman ne doit souhaiter la mort quand une épreuve l'accable. Donc ça rejoint le hadith qu'on vient de citer. Sachant que nous ne sommes pas éprouvés au-dessus de nos capacités, donc si nous sommes dans une difficulté, à nous de rechercher intérieurement la force pour surmonter l'épreuve. Et ne jamais se dire que, oh Allah, c'est trop difficile, oh Allah, reprends-moi. Ça, il ne faut jamais penser. Et pire encore, qu'une personne qui est éprouvée, elle va penser à se suicider ou autre chose. Ça, c'est la pire des choses. Donc, quand une personne est éprouvée par Allah, subhanahu wa ta'ala, en aucun cas, cette personne ne doit souhaiter la mort. Et en commentaire, les muhadithis nous expliquent qu'une personne aussi éprouvée, elle peut être. On prendra l'exemple d'une douleur ou d'un problème de santé. Même si la personne est souffrante à l'hôpital, elle souffre de je ne sais quelle maladie, elle a des douleurs, même les médicaments n'arrivent pas à calmer ses douleurs, mais elle souhaite la mort, mais elle n'imagine pas quelles sont les douleurs qui accompagnent le sakaratul maut, l'agonie. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse ce qu'un être humain, ce que toute une ville, ce que toute l'humanité peut supporter comme douleur. Lorsque l'âme est retirée du corps, même les prophètes ont souffert du khuruj al-ruh, naz' al-ruh. Même les prophètes ont décrit comment l'âme qui quitte le corps, c'est quelque chose d'insupportable. Même notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en train de mourir, il a fait qasam que pour cette mort, il y a une agonie qui est dure. Tous les anbiya, ils ont expliqué comment le sakara, tout le monde, l'agonie de la mort, ils disaient. Donc, la personne est souffrante. Elle croit qu'avec la mort, elle va s'en sortir. Non! La phase qui précède la mort, ça dépasse sa maladie, ça dépasse toutes les maladies, toutes les douleurs que cette personne peut imaginer. Ça, c'est un point. Deuxièmement, il faut savoir que, comme pour rejoindre tout ce qu'on avait dit, si le musulman, il comprend qu'Allah, il veut, à travers l'épreuve, le purifier de ses péchés, qu'il comprenne bien que les douleurs de ce monde, les souffrances, ne sont en rien comparables aux souffrances de l'au-delà. Mieux vaut souffrir quelque temps de ce monde, mais se présenter auprès du tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala sans le moindre péché. Parce que arriver là-haut, qu'Allah nous protège tous, arriver là-haut, si nous avons des comptes à rendre, si nous avons des punitions à subir pour des péchés qu'on a accomplis dans ce monde, alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre niveau. Quand on parle du Jahannam, quand on parle du feu de l'enfer, on n'a pas de mots en français pour décrire comment c'est quelque chose de terrible. Vous voyez, juste comparer que le feu de ce dunya, c'est 70 fois moins puissant que le feu du Akhirat. C'est-à-dire qu'il faut des mots multipliés par 70 au carré pour qu'on ait une idée de la souffrance, des douleurs que le Jahannam peut procurer, peut faire subir à quelqu'un qui rentre dans le Jahannam. Donc, une personne qui, on pourrait dire, marchand qui, en compensation de quelques moments de souffrance de ce monde, il achète sa tranquillité de l'au-delà. C'est vraiment un bienfait, c'est vraiment une preuve de générosité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a permis de laver ses péchés dans ce monde pour se présenter sans le moindre péché le jour de Qiyamah auprès du tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est deux raisons pour lesquelles le musulman ne doit pas souhaiter la mort dans les difficultés. Également, troisième point à retenir, qu'est-ce qu'il faut dire alors? Ni souhaiter, ni désirer dans le cœur. C'est quelque chose de dire, oh Allah, reprends en moi. Non, mais même dans le cœur qu'on le dise, je veux mourir, c'est mieux, ça aussi il ne faut pas. Parce que on ne sait pas, ce n'est pas cette maladie, cette difficulté, qu'il peut y avoir dans notre tête un déclic. Combien de personnes, ça tout le monde il peut témoigner, combien de personnes nous pouvons raconter l'histoire, nous connaissons, qui étaient dans le mauvais chemin. Après une épreuve, ces personnes ont compris comment ils dépendent d'Allah, et après la délivrance, ils sont retournés vers le droit chemin. C'est-à-dire qu'à partir de cette difficulté, ils ont compris que jusqu'à maintenant, je faisais fausse route. Et ils sont revenus vers Allah Ta'ala, ce qui fait que le restant de leur vie, ils les ont passés dans l'obéissance d'Allah. C'est-à-dire que ce sera quelqu'un qui sera sauvé le jour de Qiyamah par l'intermédiaire de l'épreuve. Donc l'épreuve, peut-être un ni'amak parfois de la part d'Allah Ta'ala. Parfois, il nous est arrivé de parler avec des gens qui sont, Allah Musta'an, très éloignés de la religion. Pas de salat, rien. Plus de confiance en Allah, il n'y a rien. C'est comme si que il reste juste le nom. Muhammad, Ishaq, Fatima, autre chose. Mais à part ça, les discours ne font rien. La personne est complètement renfermée sur elle-même. Ben, dans des cas comme ça, parfois, on se dit qu'il faut vraiment que cette personne voit un signe de la part d'Allah, la guider dans les mains d'Allah. Mais parfois, des gens comme ça, Allah, il leur fait voir un signe, et là, ils comprennent que nous restons des hommes, des êtres humains, et nous sommes entièrement dépendants d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des sagesses qu'il peut y avoir dans les épreuves de la part d'Allah. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand quelqu'un, vraiment, il atteint un degré où il a l'impression qu'il ne pourra plus résister, il y a un doigt que le prophète nous a enseigné, le doigt qu'on a lu dans le hadith, « Oh Allah, Allah mahyini, ma kanat il hayatu khayra li, oh Allah, s'il y a un bien pour moi dans cette vie, garde-moi en vie. Wa tawaffani idha kanat il wafatu khayra li, et oh Allah, si la mort est mieux pour moi, oh Allah, alors reprends-moi. » C'est-à-dire qu'on met dans les mains d'Allah, s'il y a un khayr, s'il y a un bien pour moi de continuer à vivre, oh Allah, c'est dans tes mains, donne-moi encore la vie. S'il y a un bien pour moi de retourner auprès de toi, oh Allah, dans ce cas, vous me reprenez, mais tout est dans les mains d'Allah. On ne demande pas à Allah la mort directement. Allah. Et puis, on va clôturer avec ça. Maintenant, il explique à la fin que maintenant, que dire d'une personne qui a dépassé ce cap? Non seulement elle souhaite la mort, mais la personne décide de se donner la mort. Et ça, ce n'est pas que chez les non-musulmans, ça. Malheureusement, même dans notre communauté, il y a eu des cas où des gens qui ont, je ne sais pas quoi comme problème, hein, Allah seul connaît c'était quoi la difficulté, le problème, des gens, soit ils se sont suicidés, soit ils ont fait des tentatives de suicide. Alors, en commentaire, le hadith, il explique qu'une personne qui fait une tentative de suicide, ou qui se suicide carrément, cela concrétise l'absence totale de confiance en Allah. C'est-à-dire que la personne ne croit pas en Allah, n'a pas confiance du tout en Allah. Parce que si je suis dans cette difficulté, il faut que je m'en sorte de moi-même, je quitte le monde, je meurs. C'est-à-dire qu'il ne remet pas tout dans les mains d'Allah. Et deuxième chose, cela prouve que la personne n'a aucun rattachement avec le iman, bil qada et wal qad. La foi, c'est le destin. Et on avait déjà expliqué quand quelqu'un, il sait gérer les épreuves et mettre tout dans les mains d'Allah, ça prouve que cette personne a atteint les plus hauts degrés de la foi. Tout le monde peut faire 5 namaz, tout le monde peut faire tahajjud, tout le monde peut faire qiyamul layl, lire Qur'an, mais quelqu'un qui sait relativiser dans les épreuves, il sait tout remettre dans les mains d'Allah, ça c'est costaud. Ça c'est quelqu'un qui a une foi exceptionnelle, ça c'est une preuve de perfection de la foi, les plus hauts degrés du iman. Mais pareil maintenant, dans le cas contraire, la personne qui se suicide ou qui fait une tentative de suicide, c'est que la personne a 0% de confiance sur le destin, sur la sagesse d'Allah dans les décisions. Puis, le hadith explique également que la personne, regardez la punition, la personne qui s'est donné la mort en se poignardant ou en se jetant du haut d'une falaise ou en buvant un poison, jusqu'au Qiyamat, hein, ça fera partie de son azab pour l'éternité, cette personne aura à resubir la même difficulté, le même ta'zib, la même peine qu'il s'est affligé, il aura à subir ça en permanence dans l'au-delà. Et puis, pour terminer, Moana explique un dernier hadith. Il dit que quitter ce dunya, ce n'est jamais quelque chose de heureux, c'est jamais quelque chose de souhaitable, qu'on soit pieux ou pas pieux. Maintenant, il dit que le plus beau jour, c'est quand un musulman rencontre Allah. Ça, il n'y a pas de doute. Mais il dit également dans le hadith, « Ma min mayyitin yamutu illa nadim » Chaque personne qui meurt a des remords. Ce n'est pas être triste que le mu'min est content de retrouver Allah. Mais il y a quelques remords. C'est quoi ?« Fa in kana muhsinan nadima » Allah yakuna zdada. Si c'était quelqu'un de pieux, il aura des remords, j'aurais dû faire plus encore. Et dans le hadith, il explique que dans le jannat, le seul souci, la seule peine des ahlul jannat, c'est quoi? C'est que j'aurais dû passer plus de temps dans l'obéissance d'Allah. Tous les matchs qu'on a regardés, Ligue des Champions, Ligue 1, équipe de France, France-Irlande, France-Autriche, France, je sais pas quoi, Zimbabwe, tout ça on a regardé, combien, une heure et demie, là il y aura France, Afrique du Sud, là il y aura France, je sais pas qui c'est encore, tout c'est une heure et demie, mais c'est ça, Allah me pardonne en premier, c'est ça que le Jannati regrettera. J'aurais dû consacrer mon temps pour le dhikrullah, pour l'adoration d'Allah, pour avoir des degrés encore plus hauts dans le paradis. Mais ce ne sera pas une tristesse, parce que dans le paradis, il n'y a pas de tristesse. Ce sera juste un petit remords qui persistera dans le cœur des Ahlul Jannah. Donc pareil, quand quelqu'un meurt, un homme pieux, il aura juste quelques remords, j'aurais dû faire plus dans ma vie. Et si c'était un pécheur, il aura ce remords qu'il aurait dû demander Tawbah à Allah avant de quitter ce dunya. Mais de nos jours, mes chers frères, l'être humain reste aveuglé. Lorsqu'on parle d'une personne, on parle d'une personne du Tawbah, du retour vers Allah, de la mort. Quand quelqu'un est riche, quand quelqu'un a la santé, quand quelqu'un a un bon travail, quand quelqu'un a l'honneur de la société, c'est comme des écrans sur ses yeux. Il voit, on peut lui parler de la mort, il peut voir quelqu'un mourir, mais pour lui, c'est, il n'arrive pas à concevoir ça. Pour lui, c'est mon travail, c'est ma fortune, c'est mon bonheur, c'est mon confort. Vraiment qu'Allah nous protège d'avoir ce hubb dunya, cet attachement, cet amour pour le dunya de nos cœurs qui aveugle les gens. Il y a des gens qui vivent pour leur passion. Tout ce qu'ils veulent, ils le font. Je vais manger ça, je mange. Je trouve cette fille jolie, je vais draguer, je vais coucher avec elle. Je le dis crûment. C'est-à-dire comme kafir. Le kafir ad-dunya, c'est jinnul mu'mini wa jannatul lil kafir. Ce bas monde, c'est le jannat pour les non-croyants, pour ceux qui n'ont pas iman de leur cœur. Parce que ce qu'il veut est accessible. Il n'y a rien qui l'empêche. Mais le musulman, non. Il y a une frontière, il y a une limite. La limite, c'est quoi? C'est les ordres et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce qu'Allah m'a autorisé de faire. Je ne fais pas ce que je veux quand je veux. Quand c'est l'heure des ibadat, je fais ce qu'Allah ta'ala m'a ordonné de faire. Quand je vois que Allah a mis un interdit sur quelque chose, je m'en éloigne. Qu'Allah ta'ala donne la compréhension de ces moments de ce dunya. Qu'on ne soit pas parmi ces personnes qui, avant de mourir, il aura le remords qui n'est pas demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ta'ala donne la possibilité de comprendre quelle est l'importance de ces années que nous vivons, de ces semaines qui passent, de ces jours qui passent, de ces heures qui passent, pour que nous prenions conscience de ce cadeau qu'est le temps et que chaque seconde, c'est une seconde qui nous rapproche d'Allah, qui nous rapproche du paradis et qui nous éloigne de l'enfer. Qu'Allah ta'ala donne tawfiq à moi, à nous tous en premier, de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, parce que les discours n'ont aucun intérêt s'il n'y a pas de pratique. Le but, c'est j'écoute, je prends conscience et je ressors avec des résolutions. À partir de maintenant, je vais être régulier dans mes salades. À partir de maintenant, je vais surveiller comment vit ma famille. Quand ma femme sort, elle va faire ses courses ou autre chose, est-ce qu'elle est couverte correctement? Est-ce qu'elle met son châle? Est-ce que sa robe ou je ne sais quoi, la tunique ou autre chose, ça arrive au niveau de ses chevilles? Est-ce que ses bras sont couverts? Est-ce qu'elle est pudique? Quand mes enfants sortent, est-ce que leur manière de s'habiller est correcte? Ce que je vais acheter au supermarché, est-ce que je fais bien attention que ce qui rentre dans ma maison, c'est halal? L'argent que je vais gagner, est-ce que c'est halal? Un musulman intelligent, c'est quelqu'un qui est capable de faire une analyse de sa vie de 24 heures. Et il met d'un côté ce qui est bon, il met d'un autre côté ce qui n'est pas bon. Et ce qui n'est pas bon, il fait une liste. Ça, dans la comptabilité, les gens ils font ça. Quand vous avez la banque qui vous envoie votre relevé, qu'est-ce que vous avez gagné, qu'est-ce que vous avez dépensé, vous regardez, vous comparez. Pareil, quand vous avez vu que dans 24 heures, j'ai l'habitude de faire telle chose régulièrement, ben, j'écris petit 1, ça, 2, ça. Par exemple, petit 1, je ne fais pas Fajr avec Jamal. Petit 2, je fais telle chose. Petit 3, etc., etc. Petit 4, quand je vais au travail, je fais la bise aux collègues, aux femmes. Il n'y a aucun intérêt. On ne va pas vous renvoyer si vous n'embrassez pas vos collègues. Petit 5, telle chose. 6, telle chose. Et je regarde, ça, ce sont mes péchés à moi. Je m'appelle Ibrahim. Mes péchés de 24 heures, c'est ça. Ce n'est pas un péché qu'on a fait une fois dans l'année, non. Ça, c'est mes péchés réguliers. Il faut que je travaille ça. Il faut que je comprenne que dois-je faire pour éliminer point par point. Et si Allah voit, et Allah il sait bien, Allah il voit que ce serviteur, il est en train d'analyser sa vie, il veut se rapprocher d'Allah, en s'éloignant de ce qui est interdit, ce qui provoque la colère d'Allah. Vous savez que lorsqu'un musulman fait un pas vers Allah, Allah il fait deux pas vers lui. Et jusqu'à la fin du hadith, quand quelqu'un vient vers Allah en marchant, Allah ta'ala vient vers lui, on pourrait dire, c'est une métaphore, en courant. C'est-à-dire que Allah il vous ouvre les portes. Si Allah il voit qu'on a la bonne volonté, on essaie de se rapprocher de lui, Allah Ta'ala va nous emmener vers lui, va créer des situations pour nous, pour qu'on se rapproche de Allah. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, et nous donne la piété et le iman comme Allah nous a demandé. Subhana Rabbika, Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi Rabbil Alameen. Jazakum Allah.